Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, deuxième partie, chapitre 2, huitième sous-chapitre, de la comparaison des animaux et de l'expérimentation comparative. Dans les animaux, et particulièrement dans les animaux supérieurs, l'expérimentation est si complexe et entourée de causes d'erreur prévues ou imprévues si nombreuses et si multipliées, qu'il importe, pour les éviter, de procéder avec la plus grande circonspection. En effet, pour porter l'expérimentation sur les parties de l'organisme que l'on veut explorer, il faut souvent faire des délabrements considérables et produire des désordres médias ou immédiats qui masquent, altèrent ou détruisent les résultats de l'expérience. Ce sont ces difficultés très réelles qui ont si souvent entaché d'erreurs les recherches expérimentales faites sur les êtres vivants et qui ont fourni des arguments aux détracteurs de l'expérimentation. Mais la science n'avancerait jamais si l'on se croyait autorisé à renoncer aux méthodes scientifiques parce qu'elles sont imparfaites. La seule chose à faire en ce cas, c'est de les perfectionner. Or, le perfectionnement de l'expérimentation physiologique consiste non seulement dans l'amélioration des instruments et des procédés opératoires, mais surtout et plus dans l'usage raisonné et bien réglé de l'expérimentation comparative. Nous avons dit ailleurs qu'il ne fallait pas confondre la contre-épreuve expérimentale avec l'expérimentation comparative. La contre-épreuve ne fait aucunement allusion aux causes d'erreurs qui peuvent se rencontrer dans l'observation du fait. Elle les suppose tout éviter et elle ne s'adresse qu'au raisonnement expérimental. Elle n'a en vue que de juger si la relation que l'on a établie entre un phénomène et sa cause prochaine est exacte et rationnelle. La contre-épreuve n'est qu'une synthèse qui vérifie une analyse ou une analyse qui contrôle une synthèse. L'expérimentation comparative, au contraire, ne porte que sur la constatation du fait et sur l'art de le dégager des circonstances ou des autres phénomènes avec lesquels il peut être mêlé. L'expérimentation comparative n'est pourtant pas précisément ce que les philosophes ont appelé la méthode par différence. Quand un expérimentateur est en face de phénomènes complexes dus aux propriétés réunies de divers corps, il procède par différenciation, c'est-à-dire qu'il sépare successivement chacun de ces corps un à un et voit par différence ce qui appartient à chacun d'eux dans le phénomène total. Mais cette méthode d'exploration suppose deux choses. Elle suppose d'abord que l'on sait quel est le nombre des corps qui concourent à l'expression de l'ensemble du phénomène. Et ensuite, elle admet que ces corps ne se combinent point de manière à confondre leur action dans une résultante harmonique finale. En physiologie, la méthode des différences est rarement applicable, parce qu'on ne peut presque jamais se flatter de connaître tous les corps et toutes les conditions qui entrent dans l'expression d'un ensemble de phénomènes. Et parce qu'ensuite, dans une infinité de cas, divers organes du corps peuvent se suppléer dans les phénomènes qui leur étaient en partie communs et dissimuler plus ou moins ce qui résulte de l'ablation d'une partie limitée. Je suppose, par exemple, que l'on paralyse isolément et successivement tout le corps en n'agissant que sur un seul muscle à la fois. Le désordre produit par le muscle paralysé sera plus ou moins remplacé et rétabli par les muscles voisins. Et l'on arriverait finalement à conclure que chaque muscle en particulier entre pour peu de choses dans les mouvements du corps. On a très bien exprimé la nature de cette cause d'erreur en la comparant à ce qui arriverait à un expérimentateur qui supprimerait l'une après l'autre chacune des briques qui servent de base à une colonne. Il verrait en effet que la soustraction successive d'une seule brique à la fois ne fait pas chanceler la colonne. et il arriverait à en conclure logiquement, mais faussement, qu'aucune de ces briques ne sert à soutenir la colonne. L'expérimentation comparative en physiologie répond à une toute autre idée, car elle a pour objet de réduire à l'unité la recherche la plus complexe et pour résultat d'éliminer en bloc toutes les causes d'erreurs connues ou inconnues. Les phénomènes physiologiques sont tellement complexes qu'il ne serait jamais possible d'expérimenter avec quelque rigueur sur les animaux vivants s'il fallait nécessairement déterminer toutes les modifications que l'on peut apporter dans l'organisme sur lequel on opère. Mais heureusement, il nous suffira de bien isoler le seul phénomène sur lequel doit porter notre examen en le séparant, à l'aide de l'expérimentation comparative, de toutes les complications qui peuvent l'environner. Or, l'expérimentation comparative atteint ce but en ajoutant dans un organisme semblable qui doit servir de comparaison toutes les modifications expérimentales, moins une, qui est celle que l'on veut dégager. Si l'on veut savoir, par exemple, quel est le résultat de la section ou de l'ablation d'un organe profondément situé et qui ne peut être atteint qu'en blessant beaucoup d'organes circonvoisins, on est nécessairement exposé à confondre dans le résultat total ce qui appartient aux lésions produites par le procédé opératoire avec ce qui appartient proprement à la section et à l'ablation de l'organe dont on veut juger le rôle physiologique. Le seul moyen d'éviter l'erreur consiste à pratiquer sur un animal semblable une opération identique, mais sans faire la section ou l'ablation de l'organe sur lequel on expérimente. On a alors deux animaux chez lesquels toutes les conditions expérimentales sont les mêmes, sauf une, l'ablation d'un organe, dont les effets se trouvent alors dégagés et exprimés par la différence que l'on observe entre les deux animaux. L'expérimentation comparative est une règle générale et absolue en médecine expérimentale, et elle s'applique à toute espèce de recherche, soit qu'on veuille connaître les effets sur l'économie des agents divers qui exercent une influence sur elle, soit qu'on veuille reconnaître par des expériences de vivisection le rôle physiologique des diverses parties du corps. Tantôt, l'expérimentation comparative peut être faite sur deux animaux de la même espèce et pris dans des conditions aussi comparables que possible. Tantôt, il faut faire l'expérience sur le même animal. Quand on agit sur deux animaux, il faut, ainsi que nous venons de le dire, placer les deux animaux semblables dans les mêmes conditions, moins une, celle que l'on veut comparer. Cela suppose que les deux animaux comparés sont assez semblables pour que la différence que l'on constate sur eux à la suite de l'expérience ne puisse pas être attribuée à une différence tenant à leur organisme même. Quand il s'agit d'expérimenter sur des organes ou sur des tissus dont les propriétés sont fixes et faciles à distinguer, la comparaison faite sur deux animaux de la même espèce suffit. Mais quand au contraire, on veut comparer des propriétés mobiles et délicates, il faut alors faire la comparaison sur le même animal, soit que la nature de l'expérience permette d'expérimenter sur lui successivement et à des reprises différentes, soit qu'il faille agir au même moment et simultanément sur des parties similaires du même individu. En effet, les différences sont plus difficiles à saisir à mesure que les phénomènes qu'on veut étudier deviennent plus mobiles et plus délicats. Sous ce rapport, jamais aucun animal n'est absolument comparable à un autre. Et de plus, ainsi que nous l'avons déjà dit, le même animal n'est pas non plus comparable à lui-même dans les différents moments où on l'examine, soit parce qu'il est dans des conditions de nutrition différentes, soit parce que son organisme est devenu moins sensible en ayant pu s'habituer à la substance qu'on lui a donnée ou à l'opération qu'on lui a fait subir. Enfin, il arrive quelquefois qu'il faut étendre l'expérimentation comparative en dehors de l'animal, parce que les causes d'erreur peuvent aussi se rencontrer dans les instruments que l'on emploie pour expérimenter. Je me borne ici à signaler et à définir le principe de l'expérimentation comparative. Il sera développé à propos des cas particuliers dans le cours de cet ouvrage. Je citerai dans la troisième partie de cette introduction des exemples propres à démontrer l'importance de l'expérimentation comparative qui est la véritable base de la médecine expérimentale. Il serait facile en effet de prouver que presque toutes les erreurs expérimentales viennent de ce qu'on a négligé de juger comparativement les faits ou de ce que l'on a cru comparable des faits qui ne l'étaient pas.